Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 13 Shahrivar, 1400 du calendrier iranien, 4 septembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran est catégoriquement opposé à l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires intérieures des pays, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. L'unilatéralisme américain est une menace pour la stabilité mondiale, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Lourd combat dans le Panjshir. L'Iran exhorte les Afghans à faire preuve de retenue et éviter la violence. Et la DCA syrienne intercepte des missiles tirés par Israël sur Damas. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'unilatéralisme américain était une menace pour la paix et la stabilité mondiale. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue chinois, Hossein Amir Abdollahian, a réitéré l'opposition de l'Iran à l'ingérence des puissances mondiales dans d'autres pays. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a également souligné que la communauté internationale n'avait d'autre choix que de lutter contre l'unilatéralisme et l'intimidation. Le ministre chinois des Affaires étrangères, pour sa part, a déclaré que l'Iran joue un rôle constructif de premier plan dans les développements régionaux et a souligné que Pékin est résolu à élargir ses liens avec la République islamique d'Iran. Les deux parties ont également blâmé les États-Unis pour la situation chaotique actuelle qu'ils ont créée en Afghanistan. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté toutes les parties afghanes à faire preuve de retenue et à éviter la violence qui ont lieu notamment dans la vallée de Panjshir, en Afghanistan, au nord de la capitale Kaboul. La République islamique d'Iran est en contact permanent avec toutes les parties et a fait tout son possible pour alléger les souffrances du peuple afghan, a déclaré Saïd Khatibzadeh. Le porte-parole iranien a noté que l'Afghanistan est épuisé après des années d'occupation occidentale, de la guerre et de la violence, et que tous les Afghans devraient donc éviter à nouveau le recours à la violence. Il a critiqué toutes les interventions étrangères en Afghanistan et a déclaré que le peuple afghan mérite un gouvernement populaire et inclusif qui reflète la structure démographique et ethnique du pays. En Afghanistan, des affrontements se sont poursuivis entre les talibans et les éléments de l'opposition qui se trouvent dans la province afghane du Panjshir, les deux parties affirmant s'être mutuellement infligées des pertes. Les combattants anti-talibans du Panjshir disent avoir repoussé les attaques et blessé des centaines de forces talibans. Les partisans locaux affirment que les talibans ont lancé des attaques dans quatre directions différentes, mais n'ont pas pu atteindre la vallée. De leur côté, les talibans ont rejeté ces allégations. Le groupe confirme son avancée dans le Panjshir et déclare avoir entièrement pris la vallée après y avoir vaincu les forces d'opposition. Des tirs de joie ont retenti dans la capitale Kaboul après que des sources talibans ont déclaré avoir pris le Panjshir. La vallée a été le seul territoire d'Afghanistan que les talibans n'ont pas pris après la prise de contrôle du pays par le groupe à la mi-août. Le groupe s'est emparé de l'Afghanistan quelques jours après que les États-Unis ont annoncé le retrait du pays après deux décennies. Toutes les troupes américaines et les forces de leurs alliés ont déjà évacué le pays. L'Iran cherche à renforcer l'amitié entre les nations, a affirmé le commandant de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran. Le contre-amiral Shahram Irani a déclaré aux journalistes en marge de la cérémonie de clôture des compétitions maritimes Sea Cup à Anzali que dans cette compétition militaire, particulièrement dans l'épreuve de plongée organisée au port Konarak, dans la province du Sistan et du Baloutchistan, l'Iran a pu remporter la première place avec une grande fermeté. Déclarant que l'objectif de l'Iran dans les compétitions militaires n'est pas seulement de gagner un titre, le chef de l'armée de mer de la République islamique d'Iran a ajouté « Nous cherchons à montrer la capacité des forces militaires de notre pays au niveau international. Et notre objectif principal, en particulier aux compétitions telles que Sea Cup, est la diplomatie maritime. » L'armée russe a déclaré que les défenses aériennes de la Syrie avaient intercepté vendredi la plupart des missiles qu'Israël avait tirés vers Damas, capitale de la Syrie. 21 des 24 roquettes tirées par des avions de guerre israéliens utilisant l'espace aérien du Liban auraient été détruites en vol avant d'atteindre leur cible. Damas a lancé un autre appel à l'Organisation des Nations Unies pour condamner les attaques du régime israélien. Le ministère syrien des Affaires étrangères a lancé cet appel à travers plusieurs des lettres adressées au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité. Il a également exhorté les organismes internationaux à s'acquitter de leurs responsabilités pour tenir Israël comme responsable et empêcher que de telles attaques se répètent. Le ministère a souligné que la Syrie impute à l'entité israélienne la responsabilité de ces crimes et affirme que les agressions israéliennes n'empêchent pas le gouvernement syrien de faire son devoir constitutionnel dans la poursuite de la lutte contre les réseaux terroristes qui sabotent la Syrie. À Bahreïn, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la normalisation des liens du royaume avec Israël et l'échange d'émissaires entre Manama et Tel Aviv. Les manifestants sont descendus dans les rues de la capitale, Manama, vendredi soir. Ils ont scandé des slogans contre l'accord de normalisation et exprimé leur soutien à la Palestine et au mouvement de la résistance. Les manifestations sont intervenues après qu'Israël a nommé jeudi son premier ambassadeur à Bahreïn. Des manifestations similaires ont eu lieu mercredi après que Bahreïn ait envoyé un ambassadeur à Tel Aviv. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a condamné cette décision, affirmant qu'elle représente le soutien de Bahreïn à la politique du régime israélien contre les Palestiniens. Bahreïn était l'un des 4 États arabes à avoir normalisé ses relations avec le régime israélien dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis l'année dernière sous la présidence de Donald Trump. Et enfin, une épidémie de choléra a fait 104 morts au Niger, parmi plus de 2800 malades recensés dans 6 régions du pays, dont la capitale Niamey, a annoncé le ministère nigérien de la Santé. Le Niger tente de juguler l'épidémie en multipliant les campagnes de sensibilisation, en distribuant des produits pour traiter l'eau et en désinfectant les lieux publics, les transports en commun et les puits d'eau dans les villages infectés. Des stocks de médicaments et des tests de dépistage rapide ont été envoyés dans les régions affectées où les malades sont pris en charge gratuitement sur des sites d'isolement, assure le gouvernement nigérien. Les autorités sanitaires appellent la population à se présenter d'urgence dans un centre de soins dès l'apparition de signes suspects de choléra, dont les diarrhées et les vomissements. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique portant sur les relations entre la Chine et la République islamique d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la République islamique d'Iran était catégoriquement opposée à l'ingérence des grandes puissances dans les affaires intérieures d'autres pays. Lors d'un entretien téléphonique vendredi avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a ajouté que l'unilatéralisme des États-Unis était une menace pour la paix et la stabilité mondiale. Il a souligné que le gouvernement iranien attachait une importance particulière à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique global de 25 ans qui a été signé par Téhéran et Pékin en mars dernier. L'accord a servi à documenter officiellement le partenariat stratégique global sino-iranien qui avait été annoncé lors d'une visite du président chinois Xi Jinping à Téhéran en 2016. Cet accord définit les grandes lignes de la coopération historique des alliés dans les domaines politiques, culturels, sécuritaire, militaire et des domaines internationaux pour les 25 prochaines années. Le haut diplomate iranien a également remercié la Chine pour son soutien à l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a souligné l'importance d'accélérer la livraison des millions de doses de vaccins COVID-19 que la République islamique d'Iran avait acheté à la Chine afin de pouvoir mieux lutter contre la pandémie de COVID-19. le ministre chinois des Affaires étrangères a pour sa part déclaré que la République islamique d'Iran jouait un rôle constructif et de premier plan dans les développements régionaux et a souligné que Pékin est résolu à élargir ses liens avec la République islamique d'Iran. La Chine estime qu'aucun obstacle au niveau international ne peut perturber les relations durables sino-iraniennes, a déclaré Wang Yi, exprimant la volonté de son pays de mettre en œuvre l'accord de partenariat stratégique de 25 ans. Le haut diplomate chinois a également noté que son pays enverrait un gros lot de vaccins Sinopharm en Iran dans les prochains jours. Les ministres iraniens et chinois des Affaires étrangères ont également souligné l'importance de la formation d'un gouvernement représentatif en Afghanistan, avec la participation de tous les groupes ethniques et politiques afghans. Ils ont également déclaré que les États-Unis sont responsables des événements actuels en Afghanistan, car ils ont joué un rôle destructeur dans le pays au cours des deux dernières décennies. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré à son homologue chinois Xi Jinping lors d'un appel téléphonique le mois dernier que les relations sino-iraniennes étaient une priorité pour son gouvernement. L'amélioration du niveau de coopération et l'expansion des relations avec la Chine sont une priorité pour la politique étrangère de la République islamique d'Iran, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder l'arrivée de ce pétrolier iranien dans les eaux territoriales de la Syrie, ce pétrolier iranien qui transporte du pétrole pour le Liban. L'annonce avait été déjà faite par le secrétaire général et du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, qui avait fait part du départ de ce pétrolier iranien pour transporter du pétrole pour le Liban, le Liban qui se trouve actuellement dans un besoin urgent, si vous voulez, en la matière. Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, avait dit, en annonçant cette nouvelle, que ce pétrolier iranien serait considéré comme faisant partie de la souveraineté du Liban, sera considéré comme le territoire libanais, à partir de son départ de l'Iran. Ce pétrolier se trouve actuellement dans les eaux territoriales de la Syrie et le pétrole doit être acheminé du Liban, de la Syrie vers le Liban. Et quelle en est l'importance de cet événement? Quelles en est les conséquences? On va aborder cela avec deux invités de l'émission d'aujourd'hui. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Disons les choses comme elles sont, les deux pétroliers iraniens ayant traversé sans accroc le canal de Suez, sans que les pressions US-Israël puissent faire fléchir l'Égypte de Sissi et le pousser à leur barrer la route, omis sens dessus, dessous la Méditerranée. Ne pas les attaquer signifie que l'axe US-Israël s'est de lui-même rendu à Canossa, quitte à ne pas faire respecter ses sanctions pour cause de crainte d'avoir affaire face au Hezbollah qui a lancé l'un des plus grands défis de toute l'histoire de l'Empire à son adresse, à savoir la territorialisation d'un pétrolier qui apporte au Liban un pétrole supraconfessionnel. Ce qui fait que si ces pétroliers sont pris pour cible, cette mer méditerranéenne, souvent agitée, connaîtra sa première guerre. Car, soit dit en passant, personne n'a cru ces derniers mois aux querelles de clochers à caractère gazier, Turquie, Grèce, Chypre, ni non plus au sérieux de ses griffes et dents que Sa Majesté et son porte-avions Queen Elizabeth ont montré à la Russie, bien installée à Tartous et prête à en découdre avec n'importe quoi oserait mettre en cause ses intérêts. Ce mercredi 1er septembre, alors que le QG Hezbollah Iran planifiait l'accueil des trois premiers pétroliers iraniens de l'histoire à atteindre Beyrouth et à relier le golfe Persique à la Méditerranée et à ouvrir, comme dans le cas de Venezuela, non seulement un corridor maritime anti-sanctions US à caractère commercial, mais aussi un corridor potentiellement militaire, un incident, un de plus, s'est produit à Haïfa. La presse israélienne évoque un problème technique dans l'une des raffineries de Haïfa, propre à faire augmenter le niveau de la pollution, un problème lié au réservoir surmonté d'une liquide bizarre et des pompes trouées. Pour l'heure, la marine israélienne s'est retranchée sous les jupes de la 5e flotte US et simule son premier exercice naval conjoint en mer Rouge. Une attaque contre les pétroliers iraniens entraînerait le Hezbollah et l'Iran dans la guerre actuelle des navires qui fera dans les mers et les océans de la région. C'est une bataille que l'alliance américano-israélienne a définitivement perdue, surtout depuis l'attaque contre un navire israélien dans la mer d'Oman il y a un mois. La Grande-Bretagne a envoyé 60 de ses forces spéciales dans le gouvernorat d'Al-Mara pour poursuivre les auteurs de cette attaque en accusant directement les Yéménites. Le premier ministre libanais désigné a été éloquent dans sa réponse aux critiques des expéditions de pétrole iranien lorsqu'il a déclaré « Donnez-nous une bougie, nous ne refuserons pas ces expéditions sans alternative. L'Iran veut aider le Liban, alors pourquoi vos alliés en Amérique et dans le Golfe Persique n'ont-ils pas fait de même au cours de 6 derniers mois de la crise écrasante ?» Une chose est sûre, le Hezbollah sera le grand gagnant de l'initiative iranienne et Israël, le grand perdant, qu'il ose attaquer ou pas.
Merci beaucoup d'avoir choisi cette émission. Pour entamer notre débat, nous allons partir tout de suite à Damas, capitale syrienne, pour rejoindre un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnon Devollé. Maître Devollé, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup. Maître Devollé, comment analysez-vous l'arrivée de ce pétrolier iranien dans les eaux territoriales syriennes, ce pétrolier dont le pétrole doit être acheminé de la Syrie vers le Liban?
Eh bien, écoutez, je crois que le moment de vérité approche. De toutes les manières, le Liban n'est pas dans une situation enviable, quels que soient les paramètres qui sont pris en compte. Soulager les pénuries, que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les stations de service. On a appris en plus de ça que des personnes, des individus en fait conservaient des stocks pour les vendre à prix d'or. Et dans ce contexte-là, il est hors de question que le peuple libanais en subisse les conséquences. Donc, dans la mesure où les Américains ont maintenant avoué, suite à l'annonce faite précédemment par le Sayed Nasrallah, que l'Iran était prêt et disposé à délivrer du crude, la question ne se pose pas. C'est une question de vie ou de mort. Donc maintenant, la question va de savoir au niveau logistique comment cela va se traduire. J'ai cru comprendre que le premier pétrolier allait arrimer à Banias, que la cargaison serait ensuite déchargée dans des tankers donc je suppose sur où, et acheminer. Alors après, c'est la vraie question, c'est dans quel contexte, par quel biais. Visiblement, ce sera par voie terrestre, mais n'oublions pas que la frontière syro-libanaise maintenant est absolument perclus de tours électroniques de surveillance installées depuis maintenant quelques temps par les Britanniques. Ces derniers donc s'affairent à essayer de contrôler et d'intercepter tous les échanges et toutes les communications qui peuvent avoir lieu dans cette région hautement sensible, et que sur cette base-là, il sera intéressant de voir si des tentatives d'interception ne seront pas à l'ordre du jour. Si c'était le cas, on peut s'attendre au pire, parce qu'il n'est pas question, encore une fois, de laisser la population libanaise sans recours, que les promesses faites par les Américains, de toutes les manières, non seulement sont des promesses fondées sur une mauvaise foi patente, mais quant à leur implémentation, de toutes les manières, on parle de plusieurs mois, puisqu'il faudrait solliciter des votes dans plusieurs forats législatifs, des autorisations, dont celle de la Banque mondiale. Ça prendrait quelque part 18 mois, d'après ce que les experts semblent mettre en avant. Et le peuple libanais n'a pas 18 mois. Maintenant, il est certain que la situation est certes différente de celle du corridor maritime établi entre l'Iran et le Venezuela, parce que là, les Israéliens sont effectivement directement, si je puis dire, concernés, dans le sens où, selon eux, pour permettre, par le biais du Hezbollah, de la façon dont eux voient les choses, pour l'Iran d'engranger un capital politique énorme au Liban, serait une catastrophe totale pour les Israéliens. On peut penser que ils sont en train de faire le maximum pour peut-être coordonner avec les Américains des opérations d'interception dans la région du canal de Suez. Il y a des rumeurs qu'un groupe de navires a quitté les États-Unis hier et se dirige dans la région. Je ne pense pas que ce soit pour admirer le paysage, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette situation, de manière générale, se développe. Nous verrons d'ici les prochaines semaines, puisque de toute façon, les trois pétroliers ne sont supposés qu'être que le début d'un convoi maritime, comme vous l'avez dit vous-même, qui relierait le golfe Persique à la Méditerranée. Et nous verrons dans ce contexte-là ce que les Américains et les Israéliens concocteront pour essayer d'interrompre ce flot énergétique.
Merci beaucoup. Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre en ligne depuis Bruxelles pour cette émission. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Maître Désolé. C'est toujours un plaisir de le voir.
Luc Michel, et de vous, quelle analyse portez-vous sur cet événement, c'est-à-dire l'arrivée de ce pétrolier iranien en Syrie, dont le pétrole doit être acheminé vers le Liban, et il va y avoir, selon des informations, d'autres pétroliers iraniens qui vont en fait se diriger vers en fait la région de Méditerranée pour acheminer, si vous voulez, du carburant, de pétrole, diesel, essence pour le Liban, pour le peuple libanais.
Moi, je vais élargir le sujet parce que le pétrolier, c'est un exemple de ce qui se passe. Il faut tout d'abord prendre deux données en cause, tout savoir la situation du Liban. Le Liban est victime d'une tentative de changement de régime des Français et des Américains, ce qu'on appelle un régime change. Il y a tout d'abord eu la guerre économique, c'était la loi César qui empêchait la reconstruction américaine donc de la Syrie, mais qui frappe au cœur les économies libanaises et irakiennes. Deuxièmement, on a transformé le mécontentement en tentative de révolution de couleur, comme il y avait eu la soi-disant révolution du Cèdre en 2005. Troisièmement, l'explosion du père de Beyrouth, elle a permis aux Américains et à Macron de s'engouffrer dans la brèche et de tenter de renverser la majorité politique existant au Liban et d'établir un gouvernement de techniciens liés à la France et au Fonds monétaire international. Enfin, il y a une quatrième chose, c'est le RET qui est mené par les réseaux de George Soros et l'Élysée et le Quai d'Orsay pour tenter de faire sauter la banque du Liban sous prétexte de Bien Malaki. C'est l'affaire de Bien Malaki qui était ouverte comme Riyad Salamé, le gouverneur de la banque du Liban. Face à tout cela, le bloc de l'Est, mais en particulier l'Iran, il répond par une guerre asymétrique. Vous savez qu'on parle partout de la guerre hybride actuellement, parce qu'elle a été définie comme la principale menace par l'OTAN occidentale. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? Ça permet à des puissances pauvres comme la Russie ou comme l'Iran de réagir et de mener des opérations en deçà de la guerre. Les Russes se souviennent qu'ils ont perdu la guerre froide et l'Union soviétique a implosé parce qu'ils ont été pris dans la course aux armements et l'affrontement classique. Cela n'arrivera plus. Mais il faut savoir que la guerre asymétrique, elle a été inventée par l'Iran, pas par la Russie. La Russie l'a théorisée en 2013, mais en 2006, dans la guerre du Liban, justement, la guerre entre le Hezbollah et Israël, c'était la première guerre asymétrique. La guerre asymétrique, l'histoire du pétrolier, etc., elle vise justement à dynamiter la guerre économique classique, c'est-à-dire à combattre les sanctions, à combattre également le mécontentement organisé par la population. Donc c'est quelque chose d'important. L'Iran actuellement mène une série de procédures. Le fameux corridor qu'on appelle Caracas-Téhéran, mais qui passe par Dakar au Sénégal, pour combattre la participation à l'OPEP du gaz avec les Russes, avec les Vénézuéliens, mais aussi avec les Équato-Guinéens de Malabo. C'est toutes des opérations qui sont en train de changer la face de la confrontation entre les blocs. Certes, il y a encore une confrontation maritime classique entre les marines russes et iraniennes alliées et les marines de l'OTAN, mais dans tous les autres domaines, c'est la guerre asymétrique. L'Iran est en train de très bien jouer. Il faut soutenir évidemment ses initiatives parce que c'est capital. Il ne faut pas se laisser enfermer dans la guerre classique dont le premier but est d'épuiser les adversaires du bloc américain pendant qu'eux s'enrichissent. Il faut au contraire dynamiter tout cela. Ça, c'est le rôle de la guerre asymétrique, de la guerre hybride, et c'est ce que l'Iran est en train de mener au Liban.
Et maître de volonté, Luc Michel était avance cette idée de la guerre asymétrique. Vous l'avez dit, voilà, il y a en ce qui concerne cette affaire du transfert du pétrole iranien vers le Liban, si vous voulez, le rôle que pourraient jouer les Israéliens, si vous voulez, dans ce domaine. Et Seyyed Hassan Nasrallah, je viens de le dire tout à l'heure en début d'émission, avait dit que voilà, que ce pétrolier était considéré comme le territoire libanais. Et ce pétrole est considéré comme faisant partie de la souveraineté de Liban. Là, il s'agit en fait d'une question du prestige et de la crédibilité de la résistance libanaise également. Pensez-vous que le régime israélien osera intervenir directement militairement pour empêcher l'acheminement du pétrole iranien de la Syrie vers le Liban?
Je ne le pense pas, parce que prendre une telle décision reviendrait à s'exposer eux-mêmes en ce qui concerne leurs besoins énergétiques et leurs infrastructures. On sait que la résistance a amplement les moyens de réduire à néant, si je puis dire, les acheminements en gaz et en pétrole de l'État sioniste, que le site Léviathan et autres installations au large des côtes israéliennes sont parfaitement en ligne de mire. Et donc, ce serait, pour ainsi dire, du tac au tac. Est-ce que les Israéliens seraient prêts à risquer cela dans un conflit ouvert? J'en doute profondément. Les calculs, non seulement sur ce dossier, mais sur des dossiers de nature régionale, ne plaident pas en cette faveur. Maintenant, ça n'empêche pas que, comme l'a dit Luc Michel, nous puissions assister à des opérations de guerre secrète, de sabotage, avec de la pose de mines magnétiques sur tel ou tel bâtiment. Et puis, encore une fois, il faudra voir si l'axe donc américano-sioniste décide peut-être de prendre le problème, selon eux, en amont, d'essayer de faire pression sur l'Égypte afin que cette dernière, de manière où elle puisse nier de manière plausible un problème quelconque, rende inaccessible le canal de Suez. C'est une possibilité aussi. Mais encore une fois, les évolutions en ce qui concerne les alliances et les discussions qui ont pu avoir lieu récemment, par exemple à Bagdad, laissent entendre que l'Égypte ne sera peut-être pas forcément réceptive à ce genre de pression, parce que sur le long terme, ce n'est pas dans son intérêt, et que la dernière chose que le pouvoir au Caire souhaiterait assister, c'est d'être plus ou moins tenu comme co-responsable de, comment dirais-je, d'affamer le peuple libanais. Donc, dans ce contexte-là, ça va être une guerre des nerfs, une guerre secrète, une guerre d'anticipation, une guerre complètement hybride, effectivement, et asymétrique, mais qui, de toute façon, doit être menée, puisqu'il s'agit vraiment de questions hautement humanitaires. On sait que, de toute façon, le régime de César est illégal, primo facie, hein, on its face, comme on dit. Il n'a aucune légitimité au sein de la communauté internationale, celle-ci bien comprise. Et dans ce contexte-là, l'opinion publique, de toute façon, n'est pas en faveur de voir des efforts déployés pour empêcher les besoins les plus élémentaires de parvenir à ceux qui en ont le plus besoin.
Luc Michel, êtes-vous d'accord, si j'ai bien suivi en fait Maître de Voli, il dit voilà que la résistance libanaise a les moyens de sa politique, et plus précisément, et d'après vous, est-ce que l'axe de la résistance, l'Iran, la Syrie et le Liban en l'occurrence, a-t-il les moyens de sa politique, et en l'occurrence toujours en fait cette question du transfert du pétrole iranien vers le Liban?
Bien entendu, l'axe de la résistance a les moyens, mais il y a surtout des conditions qui sont propres à Israël. Israël vient de changer de majorité, et donc une des raisons de la majorité, c'était les risques de guerre avec le Likoud et Netanyahou, et donc ils ne peuvent pas se précipiter dans une guerre. Les gens du Likoud sont en embuscade. Il ne faut pas oublier que la nouvelle majorité israélienne, c'est une majorité contre nature, qui va depuis des partis arabes islamiques jusque des partis d'extrême droite. La seule lien, c'était d'éliminer Netanyahou. Deuxièmement, les Israéliens sont dans une opération de séduction aux États-Unis. Vous savez que jusque-là, il y avait une alliance étroite entre le Likoud et Donald Trump, et les Républicains avaient véritablement likoudisé l'AIPAC, le lobby pro-israélien. Cela s'est terminé. Maintenant, Israël a besoin, bien entendu, de Joe Biden. Elle est obligée de prendre des gants avec les démocrates, avec la nouvelle administration. Elle ne se ruera pas dans une guerre. Et troisièmement, il y a ce qui existait déjà, c'est-à-dire que l'armée israélienne a peur des conséquences. Je vous expliquais que l'OTAN, il y a une véritable obsession de la guerre hybride. Il y a un rapport du Pentagone qui est sorti il y a quelques mois, il y a un livre qui est sorti, il y a toute une campagne contre les médias, Presse TV, Afrique Média, moi-même, je suis cité dans ce rapport du Pentagone. La guerre asymétrique, elle est définie comme la principale menace contre les armées de l'OTAN et leurs alliés. Et dès lors, les Israéliens ont très peur d'une confrontation militaire. Ils ont été échaudés par la courte guerre à Gaza et en Cisjordanie il y a quelques semaines contre les Palestiniens, qui s'est très mal passé pour eux. Et ils craignent évidemment une confrontation directe avec le Hezbollah. Le Hezbollah, qui est ce qu'on appelle justement un élément clé de la guerre asymétrique, c'est-à-dire que la guerre asymétrique, elle est menée par l'Iran et la Russie, par des acteurs non étatiques. C'est-à-dire que les conséquences diplomatiques qui seraient celles d'un affrontement entre États et entre armées n'existent pas dans la guerre asymétrique. Donc les gens de l'OTAN comme les Israéliens sont tout à fait perdus dans cette configuration. Ça explique leur panique, ça explique toute la gesticulation autour de cela. Et l'Iran, évidemment, il a saisi très intelligemment l'histoire pour aider le peuple libanais.
Maître de Volley, nous avons une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît.
Oui, mais je pense que cette séquence peut être un tournant majeur dans cette stratégie de siège économique. Les deux, trois prochaines semaines seront, à mon avis, vitales Et on peut espérer que les choses vont tourner parce que, de toute façon, la situation n'est plus tenable. Les tensions sont, sont à leur extrême. Les peuples de la région sont fatigués. Mmh. Et c'est une situation, je pense, où, dans l'absolu, la résistance n'a absolument rien à perdre et tout à gagner.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Volley, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, le géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À bientôt. Très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. La présence américaine est préjudiciable à la sécurité, à la stabilité et à la paix, selon le président iranien. L'expérience de la présence américaine dans différents pays et parties du monde prouve que cette présence n'a jamais été créatrice de sécurité, mais au contraire a été préjudiciable à la sécurité, la stabilité et la paix, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi. S'exprimant lors d'une réunion du cabinet ce mercredi matin, le président Raisi s'est référé aux récents événements en Afghanistan et a décrit ce qui s'est passé en Afghanistan au cours des deux dernières décennies comme un signe clair de violation flagrante des droits de l'homme à l'époque actuelle, déclarant « Si seulement le nombre de femmes et d'enfants qui ont été tués, blessés ou mutilés en Afghanistan au fil des ans, nous verrons quelle catastrophe silencieuse s'est produite dans ce pays. » Soulignant que l'expérience de la présence américaine dans différents pays et parties du monde prouve que cette présence n'a jamais été un facteur de sécurité, le président Raisi a précisé que les Américains, avec une telle histoire et de telles performances, créer une atmosphère contre d'autres pays sous divers prétextes au lieu d'être responsable devant l'opinion publique mondiale. Aujourd'hui, les Américains créent une atmosphère contre notre pays sous prétexte de problèmes pour lesquels il existe une réponse. Et ici, j'appelle les deux agences responsables, y compris les médias nationaux, à répondre de manière appropriée à de telles accusations et motifs, a-t-il souligné encore. À l'issue de la réunion, le président Raisi a mentionné l'augmentation des interactions et l'augmentation des échanges avec des pays voisins comme l'une des priorités du 13e gouvernement et a déclaré « La diplomatie gouvernementale la plus active doit être avec les voisins et nous devrions faire tout notre possible pour accroître le commerce et la coopération économique avec les voisins. » Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, déclarant jeudi que la République islamique d'Iran est ouverte pour le principe du dialogue visant à relancer l'accord multilatéral sur l'accord nucléaire de 2015, a déclaré « Mais la négociation pour la négociation n'est pas tolérable ». Lors d'un appel téléphonique le jeudi 2 septembre, le chef de la diplomatie autrichienne a félicité son nouvel homologue iranien Hossein Amir Abdollahian, récemment nommé à ce poste. Il a également fait part de la disponibilité de son pays à promouvoir la coopération Téhéran-Vienne avant d'annoncer le don d'1 million de doses de vaccins au cours des deux prochaines semaines. Le ministre autrichien des Affaires étrangères a également remercié la République islamique d'Iran pour son aide dans le transfert de ressortissants autrichiens d'Afghanistan et a souligné
souligné la nécessité d'échanger des vues sur le plan global d'action conjoint de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et la reprise des pourparlers de Vienne sur la relance de ce pacte multilatéral. S'agissant de l'accord nucléaire, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la République islamique d'Iran a joué son rôle et un rôle essentiel pour le maintien du plan global d'action conjoint et cela avec une patience stratégique face au retrait unilatéral américain et à l'inaction de l'Europe. Le moment est venu pour les autres parties de se réunir et de mettre en œuvre leurs engagements de manière réelle et pratique, a insisté le chef de la diplomatie iranienne. Le ministère syrien des Affaires étrangères a réclamé par le biais de la mission permanente à Genève aux organisations humanitaires internationales d'exercer des pressions sur les autorités d'occupation israélienne pour qu'elles mettent fin aux violations des droits des citoyens syriens dans le Golan syrien occupé et d'intervenir immédiatement en vue de leur permettre de retourner à leur localité. Un communiqué fait savoir que la mission permanente à la demande du ministère des Affaires étrangères avait adressé des messages au bureau du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et au CICR à Genève pour réclamer d'exercer des pressions sur les autorités d'occupation israéliennes dans le but de mettre fin à leurs pratiques illégales contre les citoyens syriens dans le Golan syrien occupé et de les obliger à obtempérer aux engagements juridiques internationaux en vertu des conventions de Genève en tant que de force existée par occupation. A noter que le ministère syrien des Affaires étrangères avait demandé à la mission permanente de s'adresser aux organisations concernées à l'ONU, aux autres deux organisations internationales concernées à Genève pour protéger les Golanais des pratiques et des violations menées par les autorités d'occupation israéliennes, en particulier l'interdiction aux Golanais qui avaient voyagé hors de la Palestine occupée pour étudier, travailler ou pour n'importe quelle autre raison de regagner leur ville et localité dans le Golan syrien occupé. Arabie Saoudite, le licenciement massif de Yéménites inquiète Human Rights Watch. Human Rights Watch a alerté sur le licenciement de masse de Yéménites qui travaillent en Arabie Saoudite. L'ONG appelle Riyad à revenir sur une nouvelle réglementation qui condamne des milliers de travailleurs un retour dans leur pays en proie à une guerre meurtrière et la pire crise humanitaire au monde. Les autorités saoudiennes sont en train de licencier des centaines, voire des milliers d'employés yéménites, les menaçant de rentrer au Yémen en proie à un conflit, une crise humanitaire, déclare à Afra Nasser, chercheuse responsable du Yémen au sein de HRW dans un communiqué publié mardi 31 août. Riyad a commencé en juillet à mettre fin ou à de ne pas renouveler les contrats d'employés les yéménites, rapporte l'ONG. À cette date, le ministère saoudien des Affaires des ressources humaines avait annoncé de nouvelles règles craignant les entreprises à limiter le nombre d'employés originaires de certains pays, dont le Yémen. Dans le cas des Yéménites, leur nombre ne peut surpasser 25% de la masse salariale d'une entreprise. Une décision lourde de conséquences alors qu'environ 2 millions de Yéménites vivent et travaillent en Arabie Saoudite voisine, selon des données yéménites datant de 2020. Certains sont nés dans le royaume saoudien et n'ont jamais mis les pieds au Yémen. Les licenciements d'employés yéménites en Arabie Saoudite ont lieu dans un contexte de guerre saoudienne contre le Yémen lancée depuis mars 2015. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont mortes et des millions d'autres ont été déplacés suite à cette guerre d'agression lancée par l'Arabie Saoudite et un nombre infime de régimes dont les Émirats Arabes Unis qu'ils en fait l'accompagnent dans cette guerre d'agression, toujours selon l'Organisation des Nations Unies, suite au bombardement saoudien. En fait, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et d'importantes dégâts avaient été infligés surtout aux infrastructures vitales du Yémen lors des bombardements aériens et saoudiens. Ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.